Nous sommes de retour alors qu'après 40 minutes de jeu, le Canadien avait les Leafs dans les câbles et tout à coup, une pénalité à Suzuki méritée, une pénalité pour Weber pour avoir tiré la rondelle chez les spectateurs et bang, bang, Nylander, Tavares, on a une égalité de 3-3. Danny, j'ose dire que c'est encore... C'est le genre de match typique Canadien-Maple Leafs. À 5 contre 5, le Canadien domine les Leafs. Et si on leur donne de l'avantage numérique, là, les Leafs ont de l'air.
Ben écoute, très typique. Moi, je regarde le match de Simmons en particulier.
Oui.
Et lui, là, comme dirait l'autre, il connaît sa job. Mm-hmm. C'est un vétéran. Je trouve que, il y a des joueurs chez les Leafs qu'on ne voit pas, là. Thornton a quand même eu une chance là. Il y a eu un très beau jeu de Suzuki qui l'a empêché d'avoir un tir. Il aura probablement marqué. Mais sa vitesse, tout ça. Mais dans le cas de Wayne Simmons, lui là, écoute, le match ça dormait là, oui. Tout en contrôle. Bousculade avec Charrot.
Provoque une bagarre avec Charrot.
Il se bat avec Charrot. Premier deux minutes de désavantage du Canadien. Oui. Après ça, c'est un peu l'effet domino. Là, il y a eu la pénalité ensuite à Anderson pour boarding, pour avoir donné de la bande.
Oui.
Ensuite à Suzuki et ensuite à Weber. Ça t'en fait quatre de suite, Saint-Martin. Fait que voilà. Moi, je veux bien là, dire, OK, peut-être que les Leafs sont une force de frappe, mais tu peux pas les laisser jouer en désavantage. Tu peux pas jouer contre les Leafs à 8 minutes de désavantage, dont un 5 contre 3,
et
espérer
un défenseur,
t'en sortir.
Avec un défenseur de ton premier duo qui est assis pendant 5 minutes au banc.
Et ensuite, la malchance, mais quand même, Weber, sa pénalité coûte très cher.
Danny, ton sujet de ce soir maintenant.
Bon, mon sujet de ce soir, c'est que imaginez-vous si le Canadien avait joué deux ou trois matchs de suite contre les Leafs. Deux ou trois matchs de suite, là, évidemment, contre les Oilers d'Edmonton. Deux, trois matchs contre les Canucks de Vancouver. On est dans un format de série d'après-saison.
Oui.
Et moi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que la barre va être très, très haute pour les joueurs clés des différentes formations. Lorsqu'on regarde l'élite de la Ligue nationale, on regarde des joueurs qui produisent environ 1,2 points par match.
Voilà.
Les meilleurs, les Draisaitl et tout ça, c'est 1,5. Ensuite,
eux luttent pour le trophée.
Eux autres, eux luttent pour le trophée. Ensuite, il y a une autre catégorie où on est... Autour de un point par match. Il y en a plusieurs, les joueurs clés de la Ligue nationale. Mais ces joueurs-là, Martin, en série, est-ce qu'ils maintiennent le rythme?
Alors
j'ai pris peut-être une vingtaine de joueurs parmi l'élite. Vous pouvez imaginer les Pasternak, McDavid.
La crème.
J'ai pris leurs chiffres en saison, en termes de moyenne. J'ai pris les mêmes chiffres en termes de moyenne de production de points par match en série. J'ai fait le cumulatif des deux, des comparatifs, pour me rendre compte qu'en moyenne, les joueurs élites ne réussissent pas à produire au même rythme. La diminution est à peu près de 0,2.
Bon, pourquoi?
Ben, parce que le jeu est plus serré, parce qu'il y a des confrontations plus difficiles, il y a moins d'espace, il y a moins d'erreurs, les joueurs sont plus attentifs, l'enjeu est plus grand. On voit ce soir, là, c'est un premier match de saison, puis on se croirait en série. Là.
Ça va être la même chose à Edmonton en fin de semaine.
Et ça va être exactement la même chose, puis il va y avoir trois matchs à Vancouver, donc l'entraîneur... Green attend l'équipe du Canadien en se disant « Nous, là, c'est une série, c'est un 2-3. On ne peut pas perdre cette série-là. Il faut que, lorsque le Canadien va partir d'ici, on ne peut pas avoir gagné en bas de deux matchs. » Alors, tu t'imagines que le couteau entre les dents, etc. Donc, nous, ce que ça veut dire chez le Canadien que lorsqu'on regarde un joueur qui... produit à par exemple Tatar qui est un des meilleurs qui est le meilleur marqueur l'an passé chez le Canadien, c'est 0,9 points par match, même pas tout à fait un point. Avec lui, il faut que tu calcules que cette année ça va être un peu en bas de ça.
C'est ça.
Et tu fais le calcul comme ça et tu en arrives à la conclusion que ça va être extrêmement difficile pour les équipes qui n'ont pas de joueurs vedettes de maintenir la vitesse de croisière et le rythme. Parce qu'à un moment donné, Martin, là, le seul temps où il va avoir un peu d'espace, ça va être sur les unités spéciales.
Et alors? Unités spéciales aussi, à force de jouer un contre l'autre, on s'étudie?
Bien, on s'étudie, exactement. Et c'est là où les équipes les plus talentueuses auront un petit avantage si on réussit, bien sûr, à maintenir le niveau d'excellence à 5 contre 5. Donc, pour tout ça pour dire que le Canadien était 8e l'an passé à 5 contre 5 dans sa production offensive avec 118 buts. C'est vraiment leur difficulté en avantage numérique qui leur a coûté très, très cher. Donc, pour eux, cette année, ce sera important d'avoir une contribution élargie pour la raison qu'on vient d'expliquer. Et attendez-vous pas pour les Philippe Dano, les Tatars et compagnie, les gars qui négocient des contrats, Martin, attendez-vous pas à des statistiques records. Les premiers matchs, il va avoir plus de latitude à cause de la défensive qui va être un petit peu moins étanche, mais à mesure que ça va avancer, on va revenir à des pointages assez bas.
J'ai promis d'aller faire un tour dans la division centrale. Caroline, Chicago, Columbus, Dallas, Détroit, Floride, Nashville et Tampa Bay. J'ai envie de dire, Danny, une occasion pour le Lightning de revenir au top.
Oui.
J'ai envie de dire une occasion pour les Panthers enfin d'entrer en série. Mm-hmm. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on aura de Caroline, Columbus, Dallas et Nashville. Ces quatre équipes-là là, représentent actuellement des énigmes. Ouais. On sait que Détroit, là, ce sera le fond du classement, malheureusement, là, à moins d'une surprise. Là.
Ouais.
Ça va être difficile, en tout cas. Là. Mm-hmm. Alors, ce sont les équipes que j'ai nommées qui représentent vraiment des points d'interrogation. Qui va en profiter là-dedans? Là?
Ben, rapidement. Écoute, j'aimerais vraiment te donner une réponse claire et précise, mais j'ai l'impression qu'il y a des équipes qu'on a plus de chances de voir des formations décevantes. Je pense aux Prédateurs de Nashville, entre autres. Moi, je trouve qu'on tourne en rond. On cherche une identité. On veut devenir une équipe offensive.
On a changé d'entraîneur.
On cherche... Pekka-Rinne vieillit. Alors, pour moi, parmi les équipes que tu as mentionnées, s'il y en a une qui devrait décevoir, je pense malheureusement que c'est celle des Prédateurs de Nashville.